Europe 1, 22h30, 1h, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Heures passées de 3 minutes, vous pouvez toujours nous appeler au 39-21, c'est 50 centimes d'euros la minute. N'hésitez pas, je sais que vous êtes nombreux à essayer et que souvent vous heurtez à un message. Il faut tenter et retenter et je vous promets que vous y arriverez. À noter que vous ne payez pas 50 centimes d'euros la minute quand vous ne nous avez pas directement en ligne. Vous êtes donc toujours sur Europe 1 et nous sommes maintenant avec Magali que nous accueillons maintenant. Bonsoir Magali.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Comment allez-vous ?
Je vais très bien.
Bon.
Les mains un peu moites, mais ça va.
Ça va.
Ouais.
Vous êtes un peu tendue donc.
Non, ravie d'être avec vous à l'antenne ce soir.
D'accord.
J'ai repris l'écoute de votre émission assez récemment, depuis quelques mois, et j'aime beaucoup le ton nouveau que vous y donnez. Et il y a aussi d'autres chemins qui me ramènent à votre émission pour partager un petit peu ce que peut être le quotidien d'une... ce que j'appelle une femme de 50 ans.
Oui.
Je travaille tout simplement dans le monde du matériel médical et je me partage entre handicap et gériatrie. Et puis, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens dont les parents sont vieillissants, qui sont parfois un peu désemparés,
oui.
Perte de repères, perte d'identité, parce qu'une personne qui vieillit, c'est plus tout à fait un papa ou une maman, ça remet beaucoup de choses en perspective.
Oui, j'avais un de mes amis hier qui m'envoyait un message parce qu'il habite maintenant à l'étranger et qui me disait qu'il était allé voir ses parents et que, oui. Voilà, que ça avait été assez difficile pour lui de s'apercevoir que ses parents avaient vieilli et étaient maintenant presque des enfants. En tout cas, qu'il devait s'en occuper pratiquement comme on s'occupe d'enfants, en fait. Et c'est vrai que, comme on vieillit de plus en plus, c'est vrai que, et Dieu merci, c'est bien, mais c'est vrai que c'est un réel problème de s'occuper de ses parents, ensuite.
C'est vrai que c'est un réel problème, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps, surtout quand ils vont bien, l'idée de la complexité de tout ce qui peut graviter autour du handicap. Et souvent, c'est pas rare qu'à mon comptoir, il y a effectivement des gens qui tout à coup s'effondrent. Donc, j'essaie de leur créer tant bien que mal un espace de parole, de leur consacrer du temps, un café. Et ça m'est arrivé de parler de votre émission à plusieurs reprises parce que je dis que c'est bien de pouvoir parler. Donc, c'est soit SOS Amitié, je dis soit La Libre Antenne.
Et, oui, complètement.
Il y a un jean, je connais cette émission et tout. Donc, Si vous permettez, j'aimerais bien saluer chaleureusement Nadine, en espérant qu'elle se reconnaîtra ce soir. Et c'est vrai que c'est cette notion de parole, c'est ce qui manque aussi un petit peu dans mon métier, quoi. C'est pas forcément le temps et ni l'espace pour. Et heureusement que quelque part, le fait d'avoir 50 ans et des parents vieillissants d'un côté et des enfants grandissants de l'autre. La magnifique génération sandwich, ça me permet de les comprendre et du coup de leur donner plein de tuyaux, d'astuces, de conseils qui sont au-delà du simple conseil sur les produits qu'ils viennent acheter à la base.
Parce que vous avez pris conscience de cette problématique là où beaucoup n'ont pas encore réalisé tout cela, parce que ça devrait maintenant presque... être quelque chose qu'on devrait vraiment bien avoir en tête,
ouais.
C'est que la vie, bien évidemment, aujourd'hui est plus longue, alors que nous allons vieillir, nous, plus tard, plus longtemps. Et que surtout, voilà, on sera déjà à 50 ans, on est de la même génération, on va devoir s'occuper de nos enfants, de nos parents.
De nos parents.
Et que ça sera une réelle étape importante de notre vie.
Et on le voit aujourd'hui, voilà, comme des enfants qui voient des parents vieillissants, et des fois, en regardant nos enfants qui grandissent, on se dit, mais oups, où est-ce que je serai dans quelques années?
Oui, exactement.
Et voilà, non, c'est très ingrat, donc les méandres administratifs, les prises en charge de dispositifs, hein, c'est très complexe.
Ouais,
donc,
ouais.
J'organise une petite bibliothèque rapide de documents, que ce soit la prise sous tutelle, que ce soit... Moi, j'ai pris un petit peu tout ça à bras-le-corps après le décès de mon papa il y a 5 ans.
Oui.
Et ce que j'avais pas réussi à faire... Enfin, c'était aussi une bataille... un bras de fer avec les services hospitaliers qui voulaient faire sortir un EHPAD. Moi, je voulais pas, je voulais mettre en place une tutelle. Il était dans un état gravataire, il avait subi 2 amputations, 1 fracture du col du fémur. Les antalgiques puissants qu'il leur donnait, enfin, ils avaient donné le cerveau dans un état catatonique.
C'était une situation très lourde, tout de même, pour vous.
Très lourde, psychologiquement très lourde, parce qu'on n'est pas forcément préparé. Et donc moi, comme j'habite Montpellier et qu'il était hospitalisé sur Montpellier, j'allais le voir tous les 2 jours. Heureusement, j'avais la compréhension et le soutien de mes enfants, qui étaient très, très chaleureux, et ça a été très, une source de force. Et de se heurter aussi à la fratrie qui veut pas mettre des trucs en place, qui connaît pas, qui a des a priori, on n'est pas bien renseigné, on patauge, on se dispute, c'est parfois très violent.
Il y a encore beaucoup de notions d'argent qui interviennent aussi, Magali, à ce moment-là.
Aussi ouais. Surtout quand on a des parents qui sont modestes et où justement l'argent, ben, on n'en a pas,
il faut
trouver des solutions. C'est un véritable parcours du combattant.
Ouais, c'est terrible.
Et du coup, quand mon papa est décédé, j'ai pris en charge la gestion du dossier de reversion de retraite pour que ma maman ait des revenus. Et puis ma maman, elle était à la maison, elle était seule, elle n'était plus capable de prendre soin d'elle sur un plan alimentaire. Il y avait une alcoolisation passive. Donc, c'était très difficile de mettre en place des aides à domicile. Donc, on attendait patiemment que ce qui devait arriver arrivât. Et c'était très difficile d'être dans l'attente de ça. C'est-à-dire qu'elle se casse le col du fémur. On savait qu'elle allait chuter. Et c'est très difficile de dire, on n'a plus qu'à attendre que l'irréparable arrive pour justement pouvoir la prendre en charge en soins. Donc c'est arrivé, ce jour-là est enfin arrivé, c'est désespérant de dire on attend ce jour-là pour que hospitalisation, mise en EHPAD, se fasse déjà un peu mieux. Du coup, avant qu'elle rentre en EHPAD, je tiens bon cette fois-ci, je me renseigne correctement, je sollicite avec l'aide de l'hôpital un certificat médical pour lancer les démarches auprès de la tutelle. Et convocation au tribunal, je passe les détails. Comme j'étais assez bien renseignée et que par chance, dans le cadre de mon travail, je peux rencontrer des tuteurs. Donc j'en avais repéré un qui m'avait fait bonne impression et j'ai pu le solliciter comme tuteur de ma mère. Et pour être encore plus, pour que tout soit bouclé, je me suis proposée aussi comme étant subrogé tuteur. Comme ça, je gardais un œil dans les dossiers, une part active dans les dossiers, et ça me permettait de faire le relais aussi auprès de mes frères et sœurs. Donc voilà, le temps qu'eux, ils comprennent aussi comment ça se passe, il y a eu plusieurs couacs. J'ai obtenu gain de cause. Effectivement, quelques temps plus tard, ils se sont aperçus que j'avais eu raison de tenir bon. Voilà.
Et
donc, ce jour-là, j'ai été un peu inspirée.
Allez-y.
Ouais. Et ce qui fait qu'après, pour que ma mère puisse aller vivre en EHPAD et que la maison était vide, avec le tuteur, avec mes frères, on avait accepté qu'un ami d'enfance de notre famille, donc quelqu'un qui a mon âge à peu près, soit le locataire de la maison, donc on a fait le bail en bonne et due forme, etc. Et là, patatras, le gars, l'ami d'enfance, se met se met à ne pas nous payer les loyers. Voilà. Donc je ne sais
un
plus qui j'ai entendu dans la semaine, grand classique. Donc faisons l'expérience des tribunaux, des huissiers de justice, des trucs comme ça, et surtout des conflits familiaux qui augmentent d'un cran, c'est phénoménal, quoi. Et là, donc, pour rassurer ceux qui seraient dans cette situation-là, il arrive que les propriétaires gagnent. C'est-à-dire que là, il était expulsable au mois d'octobre, il a fait appel de la décision juste avant la trêve hivernale.
Oui, donc c'est reparti pour 5 mois en plus, non ?
C'est parti pour 5 mois, mais il n'a fait qu'augmenter sa dette. Il n'a pas réfléchi qu'il se tirait une balle dans le pied, c'est pas grave, hein. Et finalement, il est débouté de sa demande. Et là, on attend que la trêve hivernale soit terminée. On a l'accord de la préfecture, de la gendarmerie. L'expulsion va avoir lieu. Et on pourra continuer à le poursuivre sur sa dette.
Elle aura lieu quand, cette trêve hivernale elle est début avril
mars, à peu près.
31 mars.
Oui, voilà. Début avril. Ouais, 31 mars, début avril. Mm-hmm. Voilà. Donc, on peut gagner, mais c'est vrai que c'est une bataille. C'est une bataille qui nous a pris 3 ans et demi.
On va faire une petite pause, si vous le voulez bien, Magali, puis on se reparle tout de suite, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite.
À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
23h15, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Nous échangeons avec Magali ce soir, Lisa, excusez-moi, je vous appelle Magali. Lisa qui nous parle donc de la problématique des parents qui vieillissent et de toutes les décisions que nous sommes amenés à prendre à un moment ou un autre de nos vies. Et des décisions qui sont difficiles parce que elles entraînent toute une fratrie, comme la fratrie de Lisa. Et lorsqu'il y a des problèmes, bien évidemment, cela peut créer certains remous dans la famille. Comment ça s'est passé pour vous, Lisa, avec vos frères et sœurs ? Vous avez quand même... Ils ont quand même compris, au bout du compte ?
Oui. Alors, moi, mon prénom, c'est Magali. Lisa, c'est le nom de mon chat.
Excusez-moi. Non, mais c'est parce que j'ai un écran et ce soir, j'ai quelques problèmes avec mon écran. Donc, c'est ma grande spécialité. Vous savez, les prénoms, en fait, je dois avoir un souci. Il faudrait que je fasse analyser ça. Mais excusez-moi, Magali.
Non, c'est pas grave. Lisa, ça me va très bien si ça vous va.
Non, quand même.
Mes frères, c'est... En fait, on avait globalement, si vous voulez, on allait dans le même sens. Simplement, on a des points de vue un peu différents. Donc, on pouvait discuter de façon plus ou moins tonique ou plus ou moins cohérente. Donc, c'était bien aussi d'avoir cette confrontation de points de vue. Ça, avec mes frères, ça n'a pas tourné au conflit. C'est avec ma sœur que ça a tourné au conflit. Mais elle avait aussi sa problématique par rapport aux parents. Je pense qu'elle vivait ça davantage comme une souffrance qu'elle n'arrive toujours pas à surmonter. C'est un point de vue. Mais c'était bien aussi d'avoir avec mes frères cette confrontation de points de vue, parce qu'après tout, chacun a voix au chapitre, et parce qu'il s'agit aussi de nos parents.
Oui, complètement.
Et bien, il fallait à un moment donné trancher, prendre une décision. Et c'est pas compliqué. Quand on s'est présenté au tribunal devant le juge des tutelles et que nous avons été auditionnés chacun à notre tour, tous ensemble dans la même pièce... Tout le monde est arrivé un petit peu les mains dans les poches. Moi, j'avais préparé des dossiers, j'avais sorti de la documentation, j'avais déjà présélectionné un certain nombre de tuteurs que je voulais soumettre. Et du coup, quand la juge a vu ça, elle a pas pu s'empêcher, si vous voulez, d'abonder un petit peu dans mon sens, puisqu'elle a vu qu'il y avait... Voilà, je devenais crédible. Donc, elle a... Voilà, ça s'est joué dans des regards. Et voilà, quand j'ai proposé le nom du tuteur de ma maman, forcément, elle me l'a validé après coup.
Toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce soir puissent mettre... Vous savez, c'est bien de mettre aussi des sommes dans tout ça, pour bien se rendre compte de la problématique. Concernant votre maman, en fait, c'était donc un placement en EHPAD qui coûte de l'argent, en fait. On était sur des sommes mensuelles qui s'élevaient à combien, exactement ?
Alors, c'est assez variable. Dans l'Hérault, c'est vrai qu'on n'est pas réputé pour être les moins chers, hein. Là, l'EHPAD de ma maman, qui dépend directement du CCAS et de l'hôpital de Clermont-Hérault, on est aux alentours de 2 200 euros. On a pu le financer, on va être clair dans les chiffres. Il y a donc l'APA qui est directement versée. J'ai pu donc les deux reversions de retraite plus la retraite de ma maman.
Oui.
J'ai la CAF. Et normalement, le loyer de la maison qui devait budgéter la totalité de. Voilà. Il ne restait pas grand-chose et on avait même un petit delta qui payait une petite mutuelle.
D'accord,
Donc
d'accord.
voilà comment moi j'ai budgété le truc. Si ce n'est que, bon, voilà, le fait qu'il ne paye pas les loyers, le locataire, on était un petit peu dans la panade.
Oui,
Donc il
des
fallait
loyers
monter.
qui s'élevaient à combien en fait? Le loyer était de combien?
400 euros.
Oui, donc c'est.
C'est
Oui,
assez modeste.
oui.
Bon, la maison aussi, elle était modeste, nous sommes bien d'accord, c'était calculé, on avait bien l'accord oral qu'on a mis par écrit, donc tout le monde était consentant sur le truc.
Et ce colocataire qui ne paye pas, en fait, est-ce que, parce qu'on a souvent ici hein, des personnes qui vivent une précarité certaine hein, et qui ont du mal à payer leur loyer. On a parlé dernièrement avec Nathalie d'une femme d'une cinquantaine d'années qui nous a beaucoup émus ici parce que voilà, elle ne pouvait pas payer son loyer. Qu'en est-il pour ce locataire que vous avez? Est-ce que c'est de la mauvaise volonté ou est-ce qu'il traverse des difficultés?
Non, c'est de la mauvaise volonté et en fait, je pense que c'était quelqu'un qui nous a menti depuis le début. Hein, c'est quelqu'un qui se présente sous un profil un peu manipulateur et assez pervers et brutal.
D'accord,
Du
d'accord.
coup, c'est oui, parce que quand dans le détail, voilà, c'est à partir du moment où j'ai refusé ses avances, il s'est mis à déconner, entre
Ah oui,
guillemets, quoi.
d'accord. Bon.
Ah
Oui.
oui, y être. Ben oui, parce que quand on est célibataire et je sais pas pourquoi les hommes pensent que ils peuvent monnayer ça, quoi.
Certains
Et
hommes, oui,
c'était,
peuvent s'imaginer
hein,
beaucoup de
c'est
choses,
faux,
oui.
quoi. Non, mais même si je suis célibataire, je confonds pas compromis et compromission, quoi.
Non,
Donc,
non, non, là, on parlait juste d'un bail, on est d'accord.
on est bien d'accord.
Voilà, où rien de tout ça n'était stipulé.
Mais bon, voilà, comme c'est un ami d'enfance, on ne s'est pas forcément méfié, beaucoup de blabla, etc., de la poudre aux yeux, et le temps qu'on se rende compte de l'étendue des mensonges, les dégâts étaient déjà enclenchés, quoi.
Oui,
Donc,
il sera resté
c'est.
combien de temps dans cet appartement-là, en fait, au bout du compte?
Dans cette maisonnette, il y est resté 3 ans et demi.
3 ans et demi et sans payer, combien de temps?
En gros, il a payé l'équivalent de presque 2 ans de loyer, donc il a encore l'équivalent de plus d'un an, ouais, de
De
18
non
mois de
payer,
dette.
ouais. Oui, donc à peu près 6 000 euros, quoi.
Oui, 8 000 euros, ouais. On a 8 000 euros de dette.
Bon, et là, maintenant, en fait, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que la situation, avec le fait que vous récupériez cette maison, ça va rentrer dans l'ordre, tout ça?
Ah ben après, ça va être, il va falloir enclencher la phase 2, c'est-à-dire que la juge des tutelles, pour solder, parce que du coup, on a dû mettre en place l'aide sociale. Donc l'aide sociale, c'est la répartition d'une participation sur les enfants et petits-enfants. Donc s'ils sont solvables ou s'ils veulent le faire, voilà, c'est au bon. C'est des cas particuliers. Donc pour l'instant, j'ai un seul frère qui paye l'aide sociale, donc. Pour sortir de l'aide sociale, il faudra éventuellement vendre un bien. Et ça, c'est le juge des tutelles qui décidera de ce qu'il adviendra. Est-ce qu'on met la maison en vente pour solder l'aide sociale et pour budgéter, pour provisionner quelques années de maison de retraite. Voilà.
En tout cas, on voit à travers votre témoignage combien tout ça est complexe et en même temps,
Oui.
la chance que vous avez tout de même que frères et sœurs arrivent à s'entendre, hein, parce que
Oui,
si
oui.
il y en a un qui ne suit pas, c'est tout de suite une situation problématique, très problématique pour
Tout
votre
à fait.
maman et puis pour vous tous, hein, parce que et tout ça, c'est pour ça que je vous parlais d'éducation au début d'éducation, c'est-à-dire éduquer nos enfants maintenant à leur parler de tout ça. Alors, bien évidemment, pas quand ils sont tout petits, mais à l'adolescence, commencer à parler de ce chemin long qu'est la vie, en fait, et y intégrer un peu toutes ces choses-là.
Là, j'ai la chance d'avoir deux garçons formidables qui ont été une grande source de réconfort et qui, au fur et à mesure, depuis le temps, donc depuis ces 5 ans qui se sont écoulés, m'ont vu aussi me lancer dans la bataille, essayer de restaurer aussi ma propre histoire familiale avec mes parents, avec qui j'ai pas toujours été en bon terme.
Oui.
Et ça a été aussi pour moi un moyen de refaire un petit peu le chemin à l'envers et de remettre les choses à leur place, de guérir aussi mes blessures d'enfant. Et aujourd'hui, ils ont 21 et 25 ans, ils voient les choses un peu différemment, ils sont plus pour moi une source de réconfort. On peut parler parce que ce sont des jeunes adultes qui rentrent un peu dans la vie active. J'ai énormément de chance de les avoir dans la case soutien, quoi. Et c'est vrai que tout le contexte de ces 5 dernières années n'a pas été simple, parce que professionnellement aussi, j'ai eu beaucoup de changements. Le patron qui a pris sa retraite, on a changé de direction, on a intégré une grosse structure, il y a eu le changement du magasin, donc il a fallu aussi se réadapter à une nouvelle façon de bosser. Et quand on a un certain âge, ben on se dit, ben soit je reste, soit je m'en vais. Quand on décide de rester, il faut mettre les moyens, il faut se lancer à fond. Et là aussi, donc ça a été la famille, ça a été le boulot et ça a été les enfants aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est pour ça que je vois beaucoup de gens de ma génération qui sont un peu perdus. C'est ce que j'appelle la génération sandwich. Hein.
Oui.
C'est pas très confortable l'instant, c'est vrai que là, j'ai pas non plus trop la tête à la relation sentimentale, même si j'aimerais bien des fois me sentir épaulée.
Alors on va parler de ça si vous le voulez bien. On marque encore une petite pause et parce que c'est important aussi d'aborder ce côté là de nos vies et de ne pas s'oublier à travers l'épreuve. On marque une petite pause et on se retrouve tout de suite.
Avec plaisir.
À tout de suite.
Oui.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921 50 centimes la minute. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h27, vous êtes sur votre libre antenne, sur votre radio, sur Europe 1, et je suis ravi de partager ce moment avec vous, un moment que nous partageons avec Magali qui nous parle de la vie, de cette vie et de ses parents, cette vie qui est très longue et où on vieillit de plus en plus tard aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps plutôt, et c'est vrai que c'est aujourd'hui une épreuve que beaucoup d'entre nous devons affronter. Et dans cette épreuve, Magali, comme vous le soulignez, ne pas s'oublier, parce que c'est vrai que ce type d'épreuve, parce que ce sont nos parents, parce qu'il y a beaucoup d'amour, une envie de faire son devoir. J'entends tout de même ça chez vous beaucoup, parce que vous avez une grande conscience de tout ça. Ne pas s'oublier en tant que femme, surtout pas. En quoi, en fait, j'aimerais que vous me disiez, en quoi cela a pesé sur votre vie de femme ?
Eh bien, ça fait 10 ans que je suis divorcée, j'ai eu deux relations qui ont un peu duré, mais après ça, j'ai pas, un peu par naïveté ou par dépendance affective, j'ai pas eu des compagnons qui me convenaient ou qui correspondaient à ce dont j'avais besoin.
Oui.
Et tant que je m'étais perdue de vue, ça ne pouvait pas fonctionner. Là, aujourd'hui, je me suis un peu plus repris en main. Je suis un peu plus dans la démarche de décréter ce qui me convient ou ce qui ne me convient pas. De pouvoir dire stop à une relation. Avant, c'est moi qui étais quittée, alors qu'aujourd'hui, c'est moi qui peux quitter un homme. Et ça change énormément de choses parce que, en plus, là, je viens de m'installer dans un appartement que j'ai acheté, que je finance seule. Donc quand on est comme ça, un petit peu à l'éducation de ses enfants, quand on est divorcé, de prendre la casquette du papa et de la maman, qu'il faut équilibrer son côté masculin, son côté féminin, forcément, j'ai pas l'impression qu'on... C'est peut-être une croyance erronée que j'ai, hein, d'attirer ce qu'il faut. Forcément, ça rebute. Forcément, on fait peur. parce qu'il faut bien réfléchir, il faut faire fonctionner son intelligence, elle est redoutable, et que c'est pas le premier Pékin venu qui va nous impressionner, ou voilà, et forcément les hommes, certains hommes, ça peut les rebuter. Maintenant que je me suis aussi affirmée en tant qu'individu dans la société, dans mon entreprise, dans ma famille et dans ma vie, forcément, j'ai l'impression de mettre des barrières aux autres. Pourtant, non, elles n'y sont pas, les barrières. Elles sont basses, elles sont ouvertes. Mais par contre, je pense que ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer dans ma vie. Et quand je dis « peut rentrer », ce n'est pas une notion d'autorisation. Ce n'est pas quelque chose que j'autorise à rentrer. C'est simplement une notion de capacité.
Oui, oui, je comprends, oui.
Voilà. Quand je dis « tu ne peux pas rentrer dans ma vie », ce n'est pas que je t'autorise ou je ne t'autorise pas, c'est que tu es capable ou tu n'es pas capable. Et je ne sais pas si je n'ai pas mis des barrières un petit peu hautes aussi, quelque part, mais comment faire? À un moment donné, c'est on bouffe ou on se fait bouffer.
Qu'entendez-vous par là, mettre les barrières un peu hautes?
Eh bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je refuse la médiocrité, je refuse... des hommes qui ne s'assument pas, qui n'ont pas fait aussi leur part des choses, je veux plus être non plus sous l'emprise d'un homme qui voudrait me faire faire des choses que j'aurais pas envie de faire, d'être dominée. Je veux plus être dominée, parce que je ne peux plus être dominée, c'est plus possible. Il y a beaucoup de femmes qui s'émancipent dans la parole à travers de beaucoup de choses. Aujourd'hui, les actualités nous le renvoient bien suffisamment. Donc, c'est vrai qu'être une femme qui s'assume aujourd'hui à 50 ans, c'est... Et pourtant, je suis tolérante, ouverte d'esprit.
Moi, je suis persuadée d'une chose, c'est que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur l'homme qui va correspondre à votre état d'esprit, à votre philosophie de vie. Pour moi, quand je vous écoute, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Vous n'êtes pour l'instant pas tombé sur les hommes qui ont assez les épaules pour un homme qui a les épaules pour pour que vous veniez vous poser sur vous. Oui, ça existe, bien sûr.
J'en croise, mais c'est vrai que soit ils sont déjà en couple, soit ils sont pas. Ouh, c'est pas le bon créneau horaire. C'est pas, on n'est pas synchrone, on n'est pas encore prêt. Ou il y a quelque chose. Mais j'ai eu pendant l'année dernière, ça fait un an et demi, j'étais un peu en forme chrysalide, en train de me couper un peu, de m'isoler du monde, de m'occuper de mon fils qui allait pas bien, de ma famille, de mettre en place tout ce barda familial. Et en fait, ce qui m'a un petit peu aidée, c'est, comme je disais tout à l'heure à Natacha quand on était en préambule, je me suis aussi beaucoup appuyée sur ma spiritualité, heureusement. Heureusement, parce que c'est ça qui me tient debout, ça, et le soutien et l'amour de mes enfants. Et ça donne une pêche, ça donne l'envie de se redresser à chaque fois qu'on prend un coup de la vie, quoi. J'ai eu des creux et cette souffrance que j'ai eue, ça s'est déclenché à la suite d'une rupture sentimentale. Cette souffrance, elle m'a permis de voir comment j'étais reliée justement à moi-même dans mes émotions, comment j'ai pu dessiner les contours de cette souffrance, comment ça m'a aussi montré comment j'avais aimé cet homme. Et à la fin, quand j'ai pu sortir de ma chrysalide, je me suis rendu compte que c'était hyper salutaire.
Oui, et en fait, vous aviez besoin sûrement d'autre chose que cet homme était capable de vous proposer.
C'était, non, parce que c'était, je pense que c'est encore un homme qui m'a énormément marqué, qui m'a donné, qui m'a beaucoup inspiré. Simplement, lui, dans son histoire, il ne l'avait pas terminée, c'est-à-dire qu'il avait vécu une histoire avec une pervers narcissique manipulatrice,
oui.
Et il s'est fait remettre le grappin dessus. Donc, dans un état un peu de victime, où il est reparti, donc il m'a laissé.
Il vous a laissé, oui.
Et voilà, il m'a laissé alors qu'il reprenait goût à la vie à mes côtés, et pour repartir dans son enfer. Et après, quand on aime quelqu'un, il faut le laisser libre de faire ses expériences. Mmh. Et puis voilà.
Ça fait combien de temps, ça, en fait?
C'était il y a 2 ans.
D'accord. Mais, et il n'a pas essayé de revenir Il est resté dans son enfer?
Oui, non. Non, non, il en est sorti. Au bout de 3 mois, il a pu mettre un terme à la relation avec cette femme-là. Et aujourd'hui, je sais qu'il est en couple avec une femme et qu'il va bien, il est heureux. Je l'ai croisé il n'y a pas très longtemps à l'anniversaire d'un ami commun, donc il va bien.
D'accord.
Donc ça me fait plaisir de voir qu'il va bien. Maintenant, j'attends mon tour et j'attends effectivement.
Mais
peut-être
oui,
que...
mais vous avez 50 ans. Vous avez 50 ans. C'est jeune, 50 ans. Vous savez, aujourd'hui, je suis toujours effaré d'entendre parfois, lorsqu'on parle surtout des médias, de la télé, les hommes de plus de 50 ans, les femmes qui ne trouvent pas de travail au-dessus de 50 ans. C'est assez hallucinant d'entendre tout ça. Mais je pense qu'il faut vraiment repousser tout ça et ne pas s'en préoccuper. Parce que...
Il y a des avantages énormes.
Ah,
Moi, en tout cas,
je vais vous dire, hein, je trouve que c'est le plus bel âge, celui-là. En tout cas, le plus bel âge.
La liberté que ça confère, la liberté de penser, on est dégagé des contraintes familiales.
Puis on a acquis beaucoup de choses.
On a acquis beaucoup de choses
à 50 ans. On comprend beaucoup de choses, je trouve.
On est autonome, je suis autonome, j'aime bien bricoler, donc à la limite, voilà, je suis toujours active, je me débrouille par moi-même. Je peux aussi demander de l'aide quand j'en ai besoin. Ça permet aussi aux autres de se sentir utiles à mes côtés, ça les valorise. Donc, mais cette liberté, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas encore tout à fait savouré à sa juste valeur, cette liberté. Et c'est un privilège quand on est une femme occidentale. Libérée, d'être libre. Enfin, donc il faut que je savoure ça, et c'est ça aussi qui me propulse chaque jour, libre de mettre de la fluidité dans mes relations au boulot, dans mes relations familiales, dans mes relations amicales, vous voyez, de créer ou pas ce que je veux. En fait, on est créateur de notre vie. Liberté.
Vous avez plus le contrôle, vous avez beaucoup plus le contrôle de votre vie aujourd'hui, tout en...
La maîtrise plus que le
contrôle. Oui, la maîtrise, c'est ce que je cherchais en fait, c'est vrai, c'est la maîtrise.
La maîtrise, c'est quand on a le coup dur, c'est de savoir que c'est un coup dur, mais de savoir qu'on va s'en sortir.
Mmh. Et la maîtrise, c'est aussi, c'est pour ça que je trouvais que le contrôle n'était pas le bon mot. Le contrôle, c'est toujours avoir conscience de ce qu'on fait, vraiment, vous voyez. La maîtrise, c'est quelque chose qui s'installe presque de manière fluide, naturelle, quand on a acquis certains... Voilà, certaines connaissances, certains réflexes.
Quand on accueille voilà, ce qui ne va pas, en sachant que ce sont des choses qui ne vont pas, mais qui sont des choses extérieures à soi. Et c'est ce que j'expliquais aussi à Natacha, c'est-à-dire que quand on a un coup dur, ou quand on est en conflit ou en confrontation avec quelqu'un, ou en désaccord, c'est d'apprendre à savoir quelle est sa part de responsabilité dans le désaccord ou dans l'événement qui ne convient pas, et quelle est la part de la partie extérieure. Et on se rend compte que souvent, il y a plus qui appartiennent à la partie extérieure qu'à la partie intérieure. Donc ça permet aussi de vivre plus sereinement en disant « Magali, c'est pas toi qui yoyote de la crinière, c'est les autres qui débourrouillent un peu. » Mmh.
Et tout ça, je pense que vous avez beaucoup, beaucoup acquis toutes ces réflexions. Grâce à ce travail d'accueil et cette confrontation à toutes ces personnes que vous voyez un peu perdues, un peu... Voilà, ne sachant pas où se diriger.
Ouais, c'est un travail quotidien que j'ai fait sur moi, et du coup, je leur permets de bénéficier, entre guillemets, de mon expérience. Ça leur fait du bien, ça leur permet de se sentir écoutés. J'ai aussi beaucoup acté dans les groupes de parole à l'époque, quand mon frère, par son alcoolisme, j'ai fréquenté les groupes à l'anon. Et le groupe de parole et de soutien, c'est primordial. Et j'en parle souvent, je dis, il faut parler, parce que moi, parmi mes clients, j'ai beaucoup de gens qui me ressemblent, ou je ressemble à mes clients. Donc je dis, mais parlons, allez-y, vous êtes à mon comptoir, c'est l'endroit idéal pour vous épancher, et ça vous fait du bien, quoi.
Complètement, complètement.
Donc, c'est comme ça que je restitue un petit peu, mon expérience, je la mets à contribution.
Et à ne pas en douter, votre tour va venir, Magali. J'en suis certain.
J'ai un petit ça fait force, j'y crois.
Mais oui, vous pouvez.
Force et honneur.
Ouais. Non, mais vous pouvez complètement tomber sur un homme qui partagera les mêmes valeurs que vous et j'aime l'idée que deux amoureux se nourrissent. Vous voyez, ça apporte tout un tas de choses et tout un tas de connaissances, les connaissances de l'un
de liberté, et les connaissances de l'autre. De liberté, ça commande, et deux amours se nourrissent, oui.
Complètement.
Nourrir le couple. entretenir le couple comme on entretient un feu, c'est-à-dire en le nourrissant et en récupérant chacun son tour la chaleur, le support, le bienfait, le réconfort. Oui, c'est quelque chose de très vivant. Le couple, c'est quelque chose de très vivant.
Et c'est vrai que là,
moi, je sais que c'est des choses encore à y donner, à donner qui sont. Ouais, c'est des concepts un peu élevés, quoi. Voilà, que j'ai voulu dégrossir un peu de. J'ai voulu un peu élever le niveau. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai des aspirations qui sont pas forcément accessibles pour tout le monde.
Mais ces aspirations, elles deviennent accessibles à ceux qui font le même chemin que vous, vous savez. Ces aspirations, elles sont au niveau de celles et ceux qui évoluent, qui ont conscience, comme je le dis souvent ici, qu'il faut être à l'écoute du monde, de notre monde. Hein. Le slogan d'Europe 1, c'est « Écoute le monde changer », mais il n'est pas innocent, ce slogan. Écouter le monde changer, c'est être attentif à voilà, l'évolution de notre société, mais aussi à toutes celles et ceux qui nous entourent. Ça commence par nos voisins, ça commence par lorsqu'on marche dans la rue, ça, ouais. C'est être conscient de notre réalité et de ceux qui mm-hmm. sont dans cette réalité. Et je pense que beaucoup trop aujourd'hui continuent d'être nombrilistes, reclus sur eux-mêmes, en pensant que, en faisant l'erreur, qu'ils vont évoluer en ne pensant qu'à eux, vous voyez, et aux leurs. Or, je pense que ce sont les autres, et même ceux que l'on connaît moins bien, qui nous apportent d'un seul coup un questionnement. Je dis toujours que depuis enfant, j'ai cette conscience que je me construis à travers l'autre. Je me construis à travers l'opinion que je vais lui donner et la contre-opinion qu'il va me rendre et que l'on soit d'accord ou pas. En fait, c'est ce qui nous fait avancer. Et j'en reviens à la notion de parole dont vous parliez. Vous voyez, cette parole, parler, échanger, dire les choses, en fait, c'est quelque chose qui nous fait avancer.
Et c'est vrai que ça permettait à beaucoup de gens de comprendre qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il existe des solutions, il y a comment comprendre effectivement toute cette nouvelle, enfin tout ce qui entoure quand on s'occupe de ses parents, et c'est là où on se rend compte effectivement des limites du système, c'est compliqué. De même, la limite de nos propres modes de vie, puisqu'on n'est plus. On est souvent divorcé, on n'a pas des logements qui sont capables d'accueillir nos parents, puis c'est plus tout à fait dans notre culture non plus. Donc,
ça n'est plus du tout dans nos cultures, dans notre culture. Alors que lorsque vous voyagez, vous vous rendez compte combien en Indonésie, en Afrique du Nord, en Afrique, la notion de société et de responsabilité dans une société, par exemple, qui est un village en Afrique, la notion de solidarité, la conscience de la communauté, et donc de sa place dans la communauté, et de penser à la communauté, en même temps que l'on peut penser à soi, mais continuer de penser à la communauté. Ce sont des notions et des valeurs qui sont très présentes partout dans le monde.
Tout comme on peut nourrir le couple pour s'y ressourcer, il faut nourrir le groupe pour s'y ressourcer. Et si on ne comprend pas qu'il faut nourrir le groupe, que le groupe s'appelle famille, ou que le groupe s'appelle collègue de travail, ou que le groupe s'appelle société, si on ne le nourrit pas avec des bonnes choses, on ne pourra pas s'y ressourcer de façon bénéfique.
Exactement.
C'est primordial, ça commence par soi. Déjà, on se nourrit intérieurement pour pouvoir se ressourcer soi-même. Et de là, on passe à l'échelle suivante, c'est-à-dire la famille, puis c'est les amis, puis c'est le travail.
Exactement.
Et à chaque fois qu'on est dans un groupe, il faut nourrir le groupe pour qu'on puisse puiser aussi ce qu'il nous faut, mettre en commun, quoi.
Exister et faire exister les autres en échangeant. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une très bonne nuit, ma chère, et vous remercier pour cette intervention sur Europe 1 ce soir. Et puis, vous souhaiter que ce tour vienne en temps voulu, mais je n'ai aucun doute là-dessus.
Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment et je vous
Je vous en
remercie
prie.
très, très chaleureusement. Et c'était un vrai plaisir de partager avec vous ce soir. Et voilà.
Merci à vous, Magali. Je vous souhaite une bonne
infiniment.
Nuit. Au revoir.
À bientôt. Merci. Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.